Salut, c'est Clotilde Seil, Le National. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se dit partout au Canada où on parle français, eh bien, vous écoutez la bonne émission, Le National. Ça va vous permettre d'écouter des papiers qui je vais vous lire des papiers qui s'écrivent à droite et à gauche dans la francophonie canadienne. Entre autres, tenez ça, la nuit des idées, l'imagination au pouvoir. J'ai trouvé ce papier dans le Franco qui nous vient de Calgary. C'est au C-Space que la troisième édition de la nuit des idées s'est déroulée le 25 janvier dernier à Calgary, réunie autour du thème de l'imagination au pouvoir, écrit Sabine Verzier. Une quinzaine de participants ont pu participer à une cérémonie inspirée des Premières Nations afin de créer une enveloppe de rêve. Mai 68, les murs de Paris sont couverts de slogans au nom de la liberté. Il y en a un en particulier qui marquera les esprits suffisamment pour le retrouver à la tête d'une manifestation culturelle 50 ans plus tard, l'imagination au pouvoir. Voilà donc le thème principal de la Nuit des idées, un événement organisé depuis 2016 par l'Institut français. La manifestation culturelle était à l'origine prévue à l'échelle nationale, mais le concept s'est étendu dans plus de 70 pays grâce au réseau des instituts français, des services culturels des ambassades, des alliances françaises et d'autres centres francophones. Tous étaient intéressés par l'idée de créer un dialogue et une conversation autour d'une diplomatie des idées. C'est ainsi que le soir du 25 janvier, les 140 lieux participants ont simultanément lancé le coup d'envoi du Quai d'Orsay à Paris avec l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie à Calgary pour la première fois avec une interprétation locale du thème. L'Alliance française de Calgary a souhaité faire participer la communauté de C-Space et a ainsi fait appel à Nicholas Jones, un conseiller en affaires travaillant pour Creative Mornings. Mariette Tom, stagiaire, explique que l'attrait d'une conférence interactive résidait dans sa possibilité d'inclure les participants dans l'échange d'idées. « Nous allons donner le pouvoir à notre imagination et nous allons le faire, pas seulement en parler. » C'est à travers la création d'une enveloppe de rêve, une création artistique, collaborative, où des éléments sont assemblés sur une grande feuille de papier avant d'être pliés puis brûlés à la fin de la cérémonie, que la soirée se déroule. Le but est de réunir des éléments personnels, synonymes de réussite, de souhaits, de craintes, afin de créer une réflexion personnelle sur la source de l'imagination. Hélène Girardeau, coordonnatrice culture et communication de l'Alliance française, décrit l'événement comme une volonté de faire quelque chose qui rappelle C-Space, un espace créatif. L'affiche de l'événement a même pu être réalisée par un artiste local, Mateusz Napieralski, qui réalise des créations murales dans la ville. On lui a envoyé des photos de la cérémonie et d'enveloppes de rêves afin qu'il s'en inspire. On espère que l'imagination va être libérée ce soir, a-t-elle commenté. Ce sont des inspirations de différentes cultures indigènes qui ont inspiré la cérémonie tenue par Nicholas Jones ce soir-là. L'enveloppe de rêve, appelée despacho, un envoi en espagnol, tient son origine du Pérou. L'intervenant a ajouté à cela des éléments provenant de la culture aborigène australienne, de tribus de Tanzanie et enfin de la Confédération des Pieds Noirs. C'est étape par étape que chaque participant se joint à la création de l'enveloppe afin de trouver l'énergie ou puiser son inspiration. Avec cette cérémonie, Nicholas Jones partage ainsi son expérience et transmet au public des valeurs apprises au cours de ses voyages. L'imagination n'apparaît pas par elle-même, la volonté ne suffit pas. C'est la prise d'action qui est le mécanisme sous-jacent pour que l'imagination commence à se manifester. Plusieurs membres de la communauté de C-Space étaient aussi présents pour représenter leur entreprise et inaugurer le nouvel espace grâce à cette cérémonie. Une fois l'enveloppe des rêves refermée, elle a été brûlée, scellant avec elle les réflexions et les souhaits et l'imagination des participants sur cette grande idée qu'est l'imagination au pouvoir, la nuit des idées. C'était dans les pages culturelles du journal Le Franco qui nous vient de Calgary. Et c'est un papier qui était signé par Sabine Verzier.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Mourir pour des idées, Georges Brassens, que vous avez reconnu bien évidemment sur les ondes de Canal M. Allez, de Calgary, on se transporte en Ontario, à Toronto plus précisément, dans les pages de l'Express.ca et ce papier de François Bergeron qui écrit « On nous espionne, même si on n'a rien à cacher ». Nos réseaux de téléphonie sont vulnérables. Les agences fédérales de sécurité, la GRC et le SCRS peuvent facilement écouter nos appareils, lire nos textos et analyser les données de nos téléphones portables, tout comme les services de renseignement des autres pays et une foule de cyberpirates et fraudeurs. Et les Canadiens sont plutôt mal protégés de ces technologies intrusives par le réseau privé de téléphonie, les Bell, Rogers et compagnie. C'est ce qu'a constaté la journaliste d'enquête Brigitte Bureau de Radio-Canada, qui a raconté l'histoire de son scoop de l'an dernier à la tribune du Club canadien de Toronto ce mardi 13 février. C'est pas grave, on n'a rien à cacher. Cette réaction typiquement canadienne qu'elle dit avoir rencontrée maintes fois contraste, remarque-t-elle, avec celle que des révélations semblables ont suscité aux États-Unis, où on ne badine pas avec la sécurité nationale, et en Europe, où les citoyens n'aiment pas être fichés et espionnés parce qu'ils ont connu le totalitarisme. Brigitte Bureau a captivé son auditoire du Club canadien de Toronto avec le récit de ses enquêtes sur l'espionnage électronique. Brigitte Bureau, qui mène souvent par la force des choses plusieurs enquêtes de front, s'est baladée pendant plusieurs mois à Ottawa avec un cryptophone permettant de détecter la présence dans ses environs de capteurs DIMZI, I-M-Z-I, d'autres appareils permettant de pirater les téléphones cellulaires. Le lancement des célébrations du 150e anniversaire du Canada, au début de l'hiver 2017, a beaucoup fait réagir son détecteur autour de la colline parlementaire, confirmant que les agences canadiennes, ou d'autres, y menaient d'importantes activités d'espionnage. En Allemagne, s'intéressant cette fois à la vulnérabilité du SS7, le système interconnecté auquel adhèrent 800 réseaux de téléphonie de tous les continents, un jeune expert muni d'un simple ordinateur portable lui a permis d'écouter les conversations d'un député canadien qui avait accepté de servir de cobaye et même de le suivre à la trace dans la capitale fédérale. Le hacker allemand de Brigitte Bureau, qui a réussi à écouter et suivre un député canadien, est d'ailleurs présenté en photo dans cet article. Les compagnies de téléphone n'expliquent pas à leurs clients les risques auxquels ils s'exposent en faisant affaire avec eux, soutient Brigitte Bureau. Ses amis allemands ont trouvé Bell et Rogers faciles à pirater. Des mesures de protection ont peut-être été prises depuis son reportage. Le ministre de la Sécurité publique, Ralf Goodale, en a réclamé. Mais le secret entoure encore ce genre de travail. Au fil des ans, la journaliste Brigitte Bureau, originaire du nord de l'Ontario, a remporté plusieurs prix, notamment pour ses reportages sur l'affaire Maher Arar, ce citoyen canadien emprisonné et torturé en Syrie, et sur l'accès privilégié de leaders religieux au gouvernement conservateur de Stephen Harper. Ces enquêtes ont entraîné la démission de hauts dirigeants, la révision de certaines politiques fédérales et le déclenchement d'enquêtes. Au Club canadien, elle a été présentée par Pierre Ouellette, le directeur de Radio-Canada en Ontario, qui est allé à la même école qu'elle, à Kapuskasing. Il en a profité pour annoncer l'ouverture prochaine de nouvelles correspondances de Radio-Canada dans la banlieue nord de Toronto et à Hamilton, North Bay et Thunder Bay, où résident de nombreux francophones. Brigitte Bureau, aux Canadiens de Toronto, à l'Hôtel Royal du mardi, donc ce mardi 13 février, est également présentée en photo dans ce papier qui était signé François Bergeron, et je vous le rappelle que j'ai trouvé dans l'express.ca de Toronto.
Qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur, et se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchais dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi, je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit, hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright, man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. 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 Hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'on dise au juste? On a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus, mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
Voilà, c'est le jeune Acadien Joseph Edgar et son espionne russe qui nous ramène dans l'est du pays. Nous sommes maintenant dans les pages de la voix acadienne de l'île du Prince-Édouard, où Alexandre Roy nous présente cette semaine les jeunes athlètes de l'île qui s'entraînent avec plaisir pour les Jeux de l'Acadie, surtout s'ils ont les yeux rivés sur l'écran et qu'ils voient les grands qui se démènent à l'occasion des Jeux olympiques. Ça peut donner des idées à des jeunes, hein. Ça peut leur donner envie de faire du sport et ça peut commencer par les Jeux de l'Acadie. Ça a été écrit le 14 février dernier, la rencontre provinciale de la Ligue de mini-handball, qui regroupe des athlètes des 6 écoles françaises, a eu lieu le samedi 10 février à l'école François Buot. Jeannette Galland est très satisfaite du degré d'avancement dans la construction de la délégation qui représentera l'île du Prince-Édouard lors de la finale des Jeux de l'Acadie de Miramichi en juin prochain. Notre équipe d'encadrement est en bonne voie d'être complétée, tant pour les entraîneurs que pour les gérants, les académiciens et les accompagnateurs. Ça va très bien. Et plusieurs équipes ont commencé l'entraînement, a expliqué la coordonnatrice provinciale des Jeux de l'Acadie, Jeannette Galland. Parmi les équipes qui ont commencé l'entraînement, il y a le volleyball féminin, dirigé par Amy Richardson. L'équipe provinciale, formée à partir d'élèves de plusieurs écoles, se retrouve chaque jeudi soir au gymnase de l'école sur mer à Summerside. C'est également à cette école que se rencontrent les 15 athlètes inscrits en Ultimate Frisbee sous la direction d'Hugo Leblanc, avec l'appui de l'académicien Dominique Bernard, les mardis soirs. Là aussi, il s'agit d'une équipe provinciale qui sera formée de 6 gars et de 6 filles. La sélection finale est prévue pour le mois d'avril. Nous trouvons que si nous attendons aux Jeux régionaux pour faire la sélection finale, ça peut empêcher des jeunes de tenter leur chance dans un autre sport et ça peut les priver d'une belle expérience aux Jeux de l'Acadie. Nous voulons vraiment donner à nos jeunes le plus de chances possible de participer, a insisté Jeannette Galland. Le mini-handball est toujours aussi populaire à l'île et les équipes s'entraînent depuis l'automne dernier. D'ici peu de temps, les équipes de badminton, d'improvisation et de soccer féminin vont commencer à s'entraîner. Nous sommes à l'étape de déterminer les horaires selon les disponibilités des gymnases et des entraîneurs, mais ça avance bien, affirme Jeannette Galland. Elle attire l'attention des jeunes qui souhaitent vivre l'expérience des Jeux à considérer l'idée de s'inscrire au volet « vie active ». En 2018, le sport de démonstration sera le water polo. De plus, la troisième discipline de la programmation artistique et culturelle choisie par les organisateurs est la danse. Nos jeunes qui veulent aller aux Jeux peuvent profiter de ces disciplines pour vivre une belle expérience avec leurs amis dans un environnement complètement francophone, a indiqué Jeannette. Depuis quelques années, la Société des Jeux de l'Acadie tient son forum des régions de l'hiver. Ce forum aura lieu le 24 février prochain et il permettra à toutes les délégations de soulever leurs préoccupations et questions en vue de la prochaine finale. Écrivait dans l'Acadie, la voix acadienne, pardon, écrivait Jacinthe Laforêt. Madame Laforêt, non, c'est Alexandre Roy, pardon, qui écrit dans le même journal La Voix acadienne que la CSLF, autrement dit la Commission scolaire de langue française, confirme l'entrée en fonction de Daniel Bourgeois. En dépit de la controverse et du malaise suscité par l'embauche de Daniel Bourgeois au poste de directeur des communications et des affaires communautaires et culturelles, poste nouvellement créé, la Commission scolaire de langue française, la CSLF, a confirmé l'entrée en fonction du mari de la directrice générale, Anne-Bernard Bourgeois, le 29 janvier dernier. La CSLF a établi cette nouvelle direction pour assurer les communications au public, mener les efforts de promotion et de sensibilisation en faveur de l'éducation de langue française, collaborer avec les organismes bénévoles de la communauté acadienne et francophone de l'île et élaborer et évaluer le prochain plan stratégique de la CSLF. Le président de la commission scolaire, Émile Galland, se réjouit de la création du poste qui, selon lui, permettra à la CSLF, d'être plus présente. De plus, selon M. Galland, la CLSF pourrait bien être la première commission scolaire au Canada à établir un poste pour assumer le mandat communautaire et culturel qui découle de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La CSLF, voyons, et ses 6 écoles sont les piliers de la vitalité de la communauté acadienne et francophone de l'île. En plus de contribuer au développement personnel et intellectuel de nos leaders éventuels, nous contribuons à leur construction identitaire. Sans école, point de salut, a indiqué le président par voie d'un communiqué de presse publié le 1er février. Depuis plusieurs années, la Fédération des parents et la CSLF ont eu l'opportunité de travailler de très près sur des dossiers communs importants tels que Voir grand, ainsi que sur la sensibilisation de la communauté envers les droits en éducation de langue française en situation minoritaire. Mélissa McDonald, présidente de la Fédération des parents, insiste. La CSLF joue un rôle important de revendication pour assurer que la communauté francophone possède les institutions auxquelles elle a droit. Il est crucial que la CSLF puisse maximiser son travail de promotion et de sensibilisation tant auprès des parents francophones que de la population anglophone de l'île, a expliqué Mélissa McDonald. La Fédération des parents félicite également la CSLF pour l'embauche de Daniel Bourgeois au poste. La CSLF a très bien choisi car M. Bourgeois est un haut gestionnaire, compétent, chevronné et dynamique, qui gérera de façon efficace les nouvelles responsabilités assumées par la CSLF.
Je vais chez mon garage, dites pour faire changer mes pneus, ça coûte de l'argent. Je vais chez mon barbier pour faire couper mes cheveux, ça coûte de l'argent. Oui, l'argent fait le bonheur. Je vais au magasin pour m'acheter des cossins, toujours l'argent. Yeah. Je veux manger des bananes, manger des dîners en canne, mais j'ai pas d'argent. C'est ça qui est le malheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. L'argent. Voyage. voyager. Si tu veux t'amuser, ça prend l'argent. Si tu veux t'éclater, que ta nana prenne son pied, ça prend l'argent. Oui, beaucoup, beaucoup d'argent. Sing it. Oh yeah. Hey yeah yeah. Oh yeah. Yeah yeah yeah. Changer le monde, tu reçois toujours des comptes, encore l'argent. Et ça monte, pour toi c'est la fin du monde. Fuck l'argent, mais l'argent fait le bonheur. Quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. Usé comme tous tes gugus, t'auras perdu tout ton temps. Pour l'argent, il fait le bonheur. L'argent, l'argent fait le bonheur. Ce qu'on veut sans l'argent. On peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut. Sans l'argent.
Oui. Et puis l'argent, ben, ça risque d'être un petit problème à Cap-Pelé. Dans le moniteuracadien.com, on nous apprend la fermeture de la Banque de Montréal à Cap-Pelé. Le conseil municipal qui déplore évidemment la décision de l'institution. Claire Lantaigne écrit dans le Moniteur acadien, le conseil municipal de Cap-Pelé déplore la décision de la Banque de Montréal de fermer son institution et de déménager ses services à sa succursale de Shediac. Nous sommes au Nouveau-Brunswick. Quand nous l'avons appris, de dire le maire Serge Léger, c'était un fait accompli. Une réunion d'information a été convoquée le 16 janvier dernier, à laquelle assistaient une trentaine de citoyens, citoyennes, qui ont fait part de leurs objections. Mais la décision a été prise et irrévocable après environ 60 ans de fidélité de la communauté à cette institution financière. La banque fermera ses portes le 29 juin prochain. La rentabilité financière est ce qui importe le plus à ces institutions financières, déplore le conseil municipal. Vous écoutez Le National, c'est Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Je vous retrouve dans quelques minutes.
Armée jusqu'au temps.
Daniel Lavoie. C'est comme ça que j'ai envie de le présenter avec Ilsem pour ouvrir la deuxième partie de l'émission Le National. Et ce sujet au lendemain, ou surlendemain, bon ok, au surlendemain de la Saint-Valentin. Le français, est-ce vraiment la langue de l'amour? C'est une question qu'André Magny se pose dans le journal Le Nord qui nous ramène au nord de l'Ontario. En 2015, le site d'apprentissage de langues en ligne, Babel, faisait un sondage auprès de ses 14 000 utilisateurs pour savoir si le français était toujours la langue de l'amour. La réputation du français ne semble pas surfaite parce que celui-ci arrivait en tête du classement avec 34 % des personnes qui considéraient que c'est la langue la plus sexy, devant l'italien, 24,4 % et l'espagnol, 15,8 %. Mais pourquoi le français est-il donc auréolé de ce prestige? Simple mythe ou historiquement cela s'explique? David Robichaud, professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa, s'intéresse notamment au langage. Pour lui, souvent on a tendance à associer des langues avec différents types de discours, comme l'inuktitut, qui possède plusieurs mots pour décrire la neige. En fait, c'est une question de culture. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le français, qui était alors une langue très importante, a vu l'apparition de grands poètes ou dramaturges qui parlaient de l'amour. Cela a donné des œuvres qui avaient quelque chose de sensuel. Il y a aussi l'aspect de la phonétique. Le professeur Robichaud estime que celle du français est plus douce, plus chantante que celle du néerlandais, par exemple. Un point que corrobore facilement Suzy Quackenbush, anglophone, francophile. Depuis une trentaine d'années, elle est membre de la chorale Les Voix d'Acadie à Halifax. Elle dit « J'aime chanter en français, j'aime rouler les airs, j'aime les liaisons qu'on entend avec le français. » La chorale, principalement formée de francophones, compte aussi des anglophones. Il faut croire que c'est par le français qu'ils expriment le mieux leurs émotions. Et Cupidon intime dans tout ça. Bon, très bien, bravo pour les émotions, mais revenons à la question de départ. Sexy, le français? Plus que l'anglais? Pour David Robichaud, si l'anglais a permis d'avoir accès à un succès économique, en revanche, il a perdu en émotion. C'est une langue moins colorée. Et au lit, l'auteur, Julie Barlow, native d'Hamilton, a notamment écrit avec son conjoint Jean-Benoît Nadeau quelques ouvrages sur le français. Et les Français, dont les Français aussi, ont un accent. Payot, 2002, et pas si fou ces Français, chez Seuil, en 2005. Elle ne passe pas par quatre chemins quand elle dit « Quand je suis arrivée à Montréal, il y a 30 ans, je ne voulais rien savoir du français. Je venais à McGill pour étudier l'espagnol. Et quand j'ai rencontré Jean-Benoît, sa technique de séduction fut de me sortir du ghetto de McGill. On allait voir des pièces de théâtre, puisqu'il était critique. Avant d'avoir un amant, ça ne m'avait pas frappé, mais à partir du moment où il est devenu mon amant, c'est vrai que j'ai trouvé ça sexy au bout, le français. Juste entendre « je t'aime » en français et mon nom, Julie, prononcé à la française, les bras m'en tombaient. C'était plus séduisant que je n'aurais jamais imaginé. Et les autres anglophones, comment trouvent-ils le français? Les Anglais admirent le français autant qu'ils le détestent. Pour eux, le français est lié au sexe, à l'amour libre. La France a fait une belle jambe de branding culturel dans ce domaine. Encore aujourd'hui, il y a cette attirance chez les jeunes? Julie Barlow hésite un peu, mais finit par dire « Oui, sûrement que les jeunes pensent ça. » Cupidon peut donc continuer de virevolter en paix et en frénésie. Le French kiss a de l'avenir au-delà de la Saint-Valentin.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée, je chante un baiser. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malauvray d'une, la mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers. Tournez le ciel et tournez la terre. Tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale. De flonflon à la française, de fancifer à la fraise. Dun, 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 dun. Ta langue amie et dans mon cœur un décalcomanie marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard Adamo M. Sissola. Oh, tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyait mélancolique ces flonflons à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille, sur la digue un petit point parti, dans l'Audi de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées.
Alors, laliberté.ca, oui, bien sûr, c'était Souchon, hein, Alain Souchon, qu'on vient d'entendre avec le baiser. J'imagine que ça s'entendait, ça s'appelait comme ça, cette affaire-là. Et non pas le French Kiss, mais enfin bon, hein, on ne va pas jouer avec les mots non plus. Alors, La joie de vivre du patrimoine, c'est signé Bernard Bockel, c'est dans laliberté.ca. Nous sommes en Ontario. La bonne volonté de bénévoles, écrit M. Bockel, ne suffit pas toujours pour assurer un événement, un rayonnement, une longévité. Mais dans le cas du Festival du Voyageur, elle est assurément l'ingrédient essentiel depuis maintenant presque un demi-siècle. Je m'excuse, on n'est pas du tout en Ontario, on est au Manitoba, si je ne m'abuse. Et si cette bonne volonté a réussi à se maintenir, c'est à cause d'un mot, le patrimoine. Car c'est le besoin de garder en vie un patrimoine, c'est-à-dire de transmettre une part de soi qui a assuré l'engagement déterminant de légions de volontaires. Il était là le coup de génie de George Forrest, celui qui est devenu par la force de son idée le premier voyageur officiel, ancrer une fête d'hiver dans l'histoire et ainsi d'emblée dépasser la seule logique commerciale. Il fallait pour cela un fier bonifacien conscient de ses racines métisses et canadiennes-françaises. Son attitude de défi culturel n'avait en rien, en soi, rien d'impensable. Après tout, la ville de Saint-Boniface s'est construite en résistance à la métropole voisine. Et qui dit résistance dit forcément devoir de transmission. Transmission de valeurs appuyées sur toutes sortes d'histoires, ces matrices de culture, dès les débuts de ce qui aurait d'après tout pu passer un événement pour un événement unique, localisé dans le temps, durant l'année du centenaire de la province du Milieu, une mission a été attachée au Festival du Voyageur, une mission qui exigeait le succès, valoriser et promouvoir le patrimoine auprès de l'ensemble de la communauté, en reflétant l'époque des voyageurs et la joie de vivre par le biais d'une fête d'hiver. Pour les habitants d'une ville cathédrale à la veille d'être absorbés dans le grand Winnipeg, la possibilité de faire revivre la grande époque des ancêtres voyageurs constituait une occasion rêvée de faire valoir la puissance d'un héritage humain. Le Festival du Voyageur fournissait la preuve de la légitimité de la présence canadienne-française, si minoritaire qu'elle fût. Avec l'arrivée de Unicity en 1972, Saint-Boniface était ravalé au rang de simple quartier, mais grâce au festival, pendant une quinzaine d'années au moins, il y a eu durant une semaine, en février, une floraison de tuques rouges, sorte de cri de ralliement canadien. Le festival, comme moyen d'affirmation ostentatoire, s'est ensuite raffiné. Costumes inspirés par l'époque de la traite des fourrures et ceintures fléchées se sont multipliés. Musicalement, le concours de violonneuses et de gigueurs, instauré en 1972 par le métis Berthe Vermette, a permis l'éclosion de nouvelles générations d'artistes. De bien d'autres façons encore, le festival a servi de tremplin au patrimoine métis et canadien-français, qui s'est mis à vibrer comme jamais. Jusqu'au point où, malgré des périodes financières plus difficiles, il devint impensable de ne pas organiser un festival du voyageur. Quand le festival est-il lui-même devenu un patrimoine socio-culturel à préserver? Les avis risquent d'être partagés sur la question. Pour alimenter la discussion sur la nécessaire pérennité du Festival du Voyageur, le livre, qui sera publié en 2019, fournira sans aucun doute bien des arguments. L'initiative a été prise par une enseignante à la retraite, Lucienne Loisel, qui connaissait déjà bien l'événement annuel avant d'entamer ses recherches historiques. En effet, avec son compagnon de vie, Lucien Loisel, elle est membre de l'Ordre des voyageurs officiels. Dans son esprit, Lucienne Loisel a entrepris un voyage, un travail de nature existentielle. Sa conviction est irrévocable. Il ne faut absolument pas oublier qui nous sommes. Sinon, nous n'aurons rien à donner aux autres. Cette vérité, cet impératif est à la fois le cœur du succès du Festival du Voyageur et, et son secret pour générer de la bonne volonté. Alors ce livre, qui s'appelle Le Livre, publié par les éditions des Plaines, sera abondamment illustré, paraîtra à temps pour la 50e édition du festival, qui aura lieu du 16 au 25 février. Dans l'aquilon.nt.ca, nous sommes dans l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien. Inspiration arctique, 1 000 000 pour le mieux-être autochtone, c'est le nom du papier de Daniel Laure. C'est l'équipe du projet Mieux-être des autochtones de l'Arctique, menée par Yellowknife, par la docteure Nicole Redvers, qui a remporté la bourse de 1 million de dollars remise lors de la soirée des prix Inspiration arctique, le 31 janvier à Ottawa. Lors de la cérémonie, le président de l'Inuit Tapirit Kanatami, Nathan Obed, a annoncé que les créateurs du prix, Arnold Vidzik et Sima Sharifi, donnaient 60 millions pour perpétuer ceci. Le projet Mieux-être des Autochtones de l'Arctique est un projet de la Fondation du même nom qui vise à soutenir, par des programmes adaptés à leur culture, les personnes dans la rue qui sont à risque de suicide et d'emprisonnement. C'est un problème que personne jusqu'à maintenant n'a semblé capable de gérer avec succès, observe la docteure Nicole Redvers. Notre but premier, dit-elle, est de monter un site de guérison. Nous installerons 2 tentes de canevas et un tipi dans un secteur boisé près de l'hôpital pour y offrir des enseignements autochtones de la revitalisation culturelle, des consultations traditionnelles et de la fabrication d'outils traditionnels. La Fondation Mieux-être des Autochtones de l'Arctique bénéficiait déjà d'une subvention de la Fondation Movember qui lui a permis d'engager un coordonnateur de terrain pour sortir les individus de la rue et les emmener participer à des cérémonies traditionnelles et à des activités dans la nature.
C'est le sauvage du Nord, en tirant ses vaches, il y avait des bottes aux pieds qui faisaient la grimace. Tchnendendeyayo, tam not you wash, not you out. Come on, get the catch, did knock a new door.
Sainte-Marie sur les ondes de Canal M et le National qui va bientôt tirer à sa fin. Avant de vous quitter, je voudrais vous lire dans auroreboreale.ca, qui est un journal francophone du Yukon, que Marie-Hélène Como écrit un nouveau papier qui s'appelle « Un nouveau prêtre francophone là-bas ». Un nouveau prêtre francophone foulait le sol yukonais lors du récent solstice d'hiver. D'Ottawa en passant par Rome, Vancouver et Québec, le père Marc se dit heureux de déposer ses valises en sol nordique. Malgré son titre honorifique de Monseigneur, Marc Lalonde préfère de loin se faire appeler Père Marc. Malgré un parcours impressionnant au sein de l'Église catholique, c'est d'abord vers une carrière en médecine que se destinait à l'origine ce franco-ontarien. Il a même travaillé pendant 6 ans comme médecin de famille dans les cliniques en périphérie d'Ottawa avant de changer ses plans en répondant à l'appel de l'Église. « J'ai commencé mon évangélisation durant mes études en médecine. Cet aspect m'a toujours suivi et rempli ma vie », confie le père Marc Lalonde. Une fois son baccalauréat en théologie terminé, il décide de s'envoler pour Rome afin de réaliser une maîtrise à l'Institut Jean-Paul II pour la famille. À la suite de cette maîtrise, le père Marc est demeuré à Rome, y travaillant d'abord comme vicaire et puis travaillant au Vatican pour le Conseil pontifical pour la famille de 2000 à 2009. Ce conseil a comme mission de stimuler, promouvoir et coordonner les actions et études des différentes œuvres catholiques portant sur la famille. Après 9 ans à ce poste, le père Marc refait ses valises et quitte l'Europe pour retourner dans la ville de Québec où il est nommé recteur d'un séminaire. Et récemment, il a été contacté par l'évêque du Yukon, un ami de longue date, qui lui a demandé de venir au Yukon pour l'aider. Et c'est ainsi que le père Marc a ressorti ses valises pour se rendre cette fois-ci au pays du soleil de minuit. Il est arrivé là le 22 décembre dernier, juste à temps pour célébrer la messe de Noël auprès de la communauté franco-yukonaise. Soulignons que le nombre élevé de prêtres francophones qui se sont succédés ces dernières années au Yukon a créé une instabilité importante au sein de la communauté, plusieurs ayant pris leur distance. L'enjeu pour nous est de rétablir une stabilité en recommençant à créer des liens pour contribuer à la pérennité de la communauté francophone catholique du Yukon, souligne Eliane Cloutier, présidente du conseil d'administration de la communauté francophone catholique Saint-Eugène de Mazenode. À cet égard, le père Marc reconnaît que le contact direct avec ses paroissiens représente une expérience relativement nouvelle pour celui qui s'est investi principalement au travail d'études. D'ailleurs, il prend grand plaisir à rencontrer les gens depuis son arrivée au Yukon. Ce n'est pas facile, la situation de l'Église dans la francophonie au pays. Aujourd'hui, les moyens de communication prennent tellement de place qu'il y a un danger pour les gens de se nourrir que de ça. Il y a alors une perte de la foi dans ce nouveau contexte, déplore-t-il. Mais par la foi, j'entends par là une rencontre avec Jésus-Christ qui donne un sens à notre vie en nous offrant la liberté de donner notre vie pour l'autre, a-t-il ajouté. Et c'est en lisant les journaux de la francophonie canadienne qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas tous les mêmes soucis et les mêmes problèmes d'un côté de notre grand continent jusqu'à l'autre. Toujours dans auroreboreale.ca, on nous parle d'un pont de glace artificiel pour joindre la rive ouest. C'est Thibault Rondel qui raconte que le 16 janvier, le gouvernement du Yukon a commencé la construction d'un pont de glace à Dawson. L'objectif du projet est de relier artificiellement les deux rives de la communauté en accélérant le gel d'une bande toujours navigable large d'environ 70 mètres. À Dawson, où aucun pont n'existe, les résidents attendent habituellement que le fleuve gèle pour traverser sur la glace. Après la fonte des glaces, c'est un traversier qui assure le transport des personnes et des véhicules d'une rive à l'autre. Les périodes de transition entre gel et dégel ne durent généralement pas plus de quelques semaines. Les Dawsonites y sont habitués et les résidents de la rive ouest s'approvisionnent en conséquence. L'hiver dernier, un climat plus doux qu'à l'accoutumée avait cependant retardé le gel du fleuve. Cette situation exceptionnelle avait contraint les résidents de la rive ouest à faire preuve de patience et de créativité pour pouvoir s'approvisionner en ville. Surpris par la tournure des événements, certains résidents avaient cependant dû se résigner à embaucher une société d'hélicoptères pour assurer le transport de vivres d'une rive à l'autre. La situation s'est répétée cette année et face à l'appréhension des résidents de la rive ouest, le gouvernement du Yukon a cette fois-ci installé un canon à eau sur la rive est du fleuve pour accélérer la prise des glaces. La machinerie a été transportée sur la route Dempster depuis Fort McPherson au territoire du Nord-Ouest, où la production de glace artificielle est une technique couramment utilisée. Alors le principe est simple, il consiste à pulvériser un jet d'eau dans les airs et selon la température, les gouttelettes d'eau gèlent dans l'air et retombent sur le fleuve où elles finissent par former plus ou moins vite une solide couche de glace. Le coût du projet est estimé à 100 000 $. C'est la première fois que nous utilisons ce genre de technique au Yukon et nous avons bien hâte de voir les résultats, a indiqué le ministre de la Voirie et des Travaux publics, Richard Mustin. Si la glace prend bien et si la météo coopère, on devrait pouvoir emprunter le pont de glace dans les semaines à venir. Voilà pourquoi c'est intéressant d'écouter le National, pour sentir battre le pouls du Canada francophone et anglophone aussi, à l'occasion, par le biais de ces articles qui sortent dans les journaux et les revues francophones canadiens. C'était Clotilde Seille, il se faisait un plaisir vraiment, mais vraiment, de vous lire ces articles-là dans le cadre de l'émission Le National, présentée pour vous sur les ondes de Canal M. Merci Mathieu Tessier.